Cap Cap, Jacques Lavergne, bonsoir. Aujourd'hui, Cap Cap thématique, nous allons parler de politique avec un des candidats à l'élection présidentielle de 2022. Bienvenue à toutes et à tous sur Esprit Occitanie. C'est un vieux routier de la politique dont il est un électron libre, il a un vrai franc-parler, puis un vrai courage physique aussi, ce qui est rare en politique. Sa grève de la faim l'a amplement prouvé, c'était en 2006 et avait pour but de combattre la fermeture d'une usine japonaise dans la vallée d'Aspe. Maire de son village à 21 ans, alors le village c'est Lourdios-Ichette, j'espère que je n'ai pas écorché le nom.
C'est excellent.
Merci. Conseiller général, député notamment, parce qu'il a eu aussi encore beaucoup d'autres fonctions dans la République. Il veut, comme il l'avait fait en 2017, se présenter à l'élection à la présidente de la République en 2022. Il est aujourd'hui avec nous sur le plateau d'Esprit Occitanie. Jean Lassalle, bonjour.
Esprit Occitanie, bonjour.
Voilà, alors Jean Lassalle, on a assez peu de temps finalement, parce que comme tous les hommes politiques, vous arrivez en retard et vous partez plus tôt.
Et pourtant, j'y suis pour rien.
Et non, vous êtes pour... Non, jamais. Moi, je me pose une question. Vous êtes un tout jeune homme. Alors, je dis ça parce qu'on a le même âge, en réalité. Qu'est-ce qui vous fait encore courir? Pourquoi vous vous battez? Pourquoi vous avez envie de rentrer dans ce cirque, entre guillemets, mais ce n'est pas péjoratif dans ma bouche, dans ce cirque de l'élection à la présidence de la République?
À vrai dire, je n'en sais rien. Je ne peux pas m'en empêcher. Je vois notre pays qui dégringole, qui dégouline sous nos yeux ahuris et maintenant révulsé, et je ne peux pas l'admettre. Donc il faut que j'apporte ma contribution, qui est faite d'une expérience qui vaut ce qu'elle vaut, et d'un niveau d'enthousiasme et de bonheur intérieur. Qui m'anime et qui me fait.
Où c'est que vous trouvez encore cette fraîcheur de combattant? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Ben où c'est que vous la puisez?
Mais je ne cherche pas.
C'est naturel.
Mais je pense. Je pense, je respire, je mange et je ne me demande pas pourquoi.
Donc c'est consubstantiel à votre personne. Comment vous concevez votre rôle d'homme politique?
Ah, ça par contre, avec beaucoup de fierté d'abord. Et une immense reconnaissance aux électeurs qui ont voulu que j'aie cette expérience d'un demi-siècle pratiquement. Et puis ensuite avec une certaine solennité, contrairement à ce que l'on dit ici ou là, j'estime que le fait de représenter les citoyens, de représenter le peuple, est l'une des plus belles charges qui puisse être confiée à un homme ou une femme. Donc il faut que ce soit solennel et d'une manière engagée, parce qu'on ne peut pas faire de politique en se cachant derrière son petit doigt. On se doit de dire à tout moment sa part de réalité, de vérité, et quand on est pour, il faut le proclamer, et quand on est contre, il faut le hurler.
Les Français aiment bien mettre tout le monde dans les cases, ça, c'est peut-être plus simple pour l'esprit. Où c'est que vous vous situez politiquement? Est-ce que cette question a un sens d'abord pour vous?
Non, aucune. Surtout depuis 30 ans. Elle en a eu, pourtant, lorsque j'ai démarré. Et les électeurs étaient très heureux de cet état de fait. Ceux qui étaient plus progressistes, qui se sentaient plus partageurs aussi, plus soucieux de quitter, voter socialiste ou à gauche. Ceux qui pensaient qu'il fallait libéraliser un peu, et ceux qui pensaient qu'il fallait d'intérieur, de sécurité, c'était la droite. Et ceux qui alternaient un peu entre les deux, c'était le centre. Voilà, ça fonctionnait comme ça. Et au fond, il y avait des projets qui allaient dans ce sens-là. Depuis, nous avons capitulé devant la finance spéculative très organisée.
Pourtant, il y en a un qui disait « Mon ennemi, c'est la finance ». Je me souviens de l'avoir entendu, ça.
Oui, mais il ne l'a dit qu'une fois. Oui. Après, je pense qu'il a dû l'oublier.
Certainement.
Maintenant, il marmonne dans son coin. Mais le monde continue, même sans lui. Donc, il faut être assez modeste aussi pour faire de la politique. Mais le capital est nécessaire. D'ailleurs, le capital et le communisme ont été inventées à la même époque. C'est quand on a réalisé l'immense masse de capital qu'on avait autour de nous. Malheureusement, nous n'avons pas su réguler. Et là où nous avons vraiment perdu toute notion de bon sens, et je dirais d'humanité, l'humanité c'est l'homme, c'est après la chute du mur de Berlin et la chute du Soviet, on apparaissait comme le monde libre. Eh bien, au lieu de rester libre et de continuer à travailler notre modèle démocratique, hein, et nous nous sommes dépêchés de rejoindre, les, pour le meilleur et pour le pire, et surtout pour le pire, les États-Unis en décidant de transformer la vieille Europe, c'est-à-dire le plus vieux continent, dit-on, et malgré tout le respect que je porte à l'Ohio, il me semble que ce n'est pas tout à fait la Rome antique. De la même manière, le Massachusetts n'est pas non plus la Grèce. Et que dire de la France ou de l'Angleterre ? Est-ce que ce serait la Californie ? Non, il y a quelques siècles de différence. Et ce siècle, c'est autant de culture, autant de civilisation, autant de savoir-vivre, autant de guerre aussi. Hélas, que nous avons jugulé pour arriver à un contexte de paix. Et c'est là qu'on en profite pour faire opération porte ouverte auprès des plus grandes fortunes du monde, en leur disant, mesdames et messieurs, occupez-vous de tout, on suivra.
On a compris que vous étiez un homme libre, votre parcours le prouve abondamment. Quelles sont vos valeurs profondes ? À quoi croyez-vous ?
Je crois d'abord en l'homme, profondément. Je crois en l'instruction de la République, sans laquelle il y aurait peu de chances de me sortir du petit hameau de la pas très grande commune où je suis né à la frontière pyrénéenne. Je regrette simplement que la République ait occulté, oublié délibérément les langues régionales, parce qu'il y avait tout à fait la place, et là on aurait tout réussi. On aurait eu une langue exceptionnelle, le français, exigeante, mais porteuse en elle-même d'indépendance d'esprit. Et nous avions nos formidables langues.
On les a toujours quand même, Jean Lassalle.
Ouais, mais qu'est-ce qu'on a,
il faut se battre. Qu'est-ce c'est pas l'hostal d'Occitanie, je vais vous dire le contraire. On se bat pour l'Occitan et ici tous les jours.
On ne les respecte pas.
Non, ne les respecte
et
pas.
Et vous me demandez quelles étaient mes valeurs, c'est le patrimoine aussi. Elles font partie du patrimoine. Le patrimoine,
oui,
c'est
fait.
Ce qui vient du père ou de la mère. D'ailleurs, chez nous, plus souvent de la mère, parce que j'ai toujours vu chez nous maman commander, mémé commander, etc. Enfin, papa faisait semblant d'obéir. Mais c'était pas pareil. Mais donc, c'est le patrimoine. Ça ne nous appartenait pas, on aurait dû l'entretenir. Sinon, mes valeurs, c'est... Je crois que quand on a la chance de détenir un souffle de vie, on se doit de le faire valoir. La vie est magnifique, elle est belle. Il y a des retours de situation qui vous la rendent désagréable parfois. Eh bien, il faut se foutre un coup de pied au derrière, avancer, et chaque fois qu'on le peut, chanter, dispenser un brin d'humour plutôt qu'une grosse crasse, et puis se souvenir quand on est élu que vous avez entre vos mains la possibilité de peser sur le destin de centaines de milliers d'autres citoyens qui vous regardent. Et que de ce côté-là, il faut être au moins présentable.
Alors vous dites qu'il faut chanter, il faut aimer la vie. Quand je lisais, dans le cadre enchaîné, il faut toujours citer ses sources, que Interdit Carmonde estime que 9,5 millions de Français vivent dans la pauvreté. Vous croyez qu'on a envie de chanter, qu'on a les moyens de chanter à ce moment-là ?
Je ne sais pas de quand date ce canard enchaîné.
La semaine dernière.
Ah ouais. Bon, mais ils n'étaient peut-être pas en forme. Parce que j'ai lu d'autres journaux, y compris des journaux quand même moins engagés, parce que j'ai beaucoup de respect pour le canard enchaîné, soit dit en passant, et pas uniquement par peur de lui, mais parce que c'est quand même de l'information. Eh bien, moi j'avais entendu dire qu'il y en avait entre 10 et 15 millions. C'est plus. Alors peut-être que c'est ceux qu'ils ont eu le temps de compter. Mais moi j'en vois plus. De la manière que je lisais aussi, ou c'est plutôt mon copain, venu de l'Occitanie de l'autre côté, qui me disait...
Du Gard, si j'ai bien compris.
Du Gard, tu sais tout toi. 70% vivent avec moins de 2 000 euros. C'est quand même assez peu. Donc on n'est pas dans une période où on attache les chiens avec des saucisses.
Donc vous vous présentez à l'élection présidentielle 2022, vous l'aviez déjà fait en 2017, vous aviez, je crois qu'il y avait 11 candidats, vous étiez le 7e. Donc c'était bien, j'ai lu ça sur Wikipédia, Wikipédia renseigne vite et bien, trop vite parfois. Alors Jean Lassalle, aujourd'hui, quels sont vos moyens? Il y en a un qui avait dit, combien de le pape, combien de divisions Jean Lassalle, combien de divisions?
À peu près autant que celle du Vatican. Le problème, c'est qu'elles ne sont pas aussi riches.
Mais
tu n'es
pas le pape, quand même.
Non. Je n'ai pas fait des études pour l'être et je pense que j'aurais échoué aussi.
Ah, vous auriez été un pape flamboyant.
Ah oui, c'est vrai. Mais bon, je n'ai pas essayé. J'en ai connu un que j'ai trouvé très bien, c'est Jean-Paul II, mais il était très amoché. Il parlait comme il pouvait parce qu'il était totalement déformé. Tu sais, il avait eu un petit peu un truc dans la cafetière, mais quand même, il était très très sensé. Les divisions, c'est sûr que je n'ai pas la thune des autres, enfin de quelques-uns des autres.
Il y a des militants, vous avez des militants avec
oui,
vous. Alors vous
militants.
Avez créé un parti,
oui,
faut
déjà,
le dire.
Déjà.
Alors qui s'appelle ?
Résistant avec un point d'exclamation. Résistant pourquoi? Parce que j'estime qu'avant de changer de monde, parce que c'est ce que de toute évidence nous nous apprêtons à faire, bon gré ou mal gré, j'espère que ce sera bon gré.
Vous êtes optimiste.
Et j'espère que ce sera à notre initiative, c'est-à-dire initiative humaine pour une fois, sans ces rivières de sang qui ont emporté les jeunesses de nos aînés. Et que nous pourrons peser dessus fortement pour que cette nécessaire transformation offre de nouveau un avenir, offre de nouveau un soleil levant, un soleil couchant, un printemps merveilleux pour nos jeunes qui aujourd'hui n'ont pas de perspective, nos aînés qui n'ont guère de perspective que la maison de retraite où ils seront soignés en 3 minutes 30, café compris, avec les 15 pastilles, par une aide-soignante qui, à l'âge de 32 ans, souffre déjà de toutes les cervicales, etc. Et moi, je pense que, qu'est-ce que vous voulez ? Oui, les divisions, celles de l'argent, sont certainement le problème le plus saillant que j'ai en face de moi. C'est même une muraille que j'ai en face de moi. Eh bien, grâce à des consciences telles que la vôtre et celle de votre amie qui est assise à côté de vous, et dont je n'ai pas retenu le nom, elle s'appelle Tiffaine, eh bien, j'espère bien qu'on va faire péter cette muraille.
Vous êtes un optimiste. Remarquez, si vous n'étiez pas optimiste, vous ne seriez pas combattant.
Et
vous
ne
résisteriez pas, vous ne seriez pas là non plus. Alors, ça y est, vous êtes élu, on va faire de la politique fiction, on est en 2022, vous êtes élu, vous êtes président de la République, qu'est-ce que vous faites ?
D'abord, je prends connaissance des affaires, parce que tu ne peux pas dire je fais ci, je fais là, en fait, tu ne sais rien, puisqu'il y a 40 ans qu'on ne te dit plus rien. Mais on ne dit plus rien au peuple, qui d'ailleurs ne se considère plus comme un peuple, mais au contraire comme un amas d'hommes et de femmes qui courent dans tous les sens, comme au lendemain d'un tsunami, sans fil conducteur, sans rien. Il faut d'abord voir ce qu'il en est. Est-ce qu'il reste un peu d'argent dans les cagnottes, dit de l'État?
On en a beaucoup dépensé quand même là.
Oui, oui, beaucoup, oui. Ensuite, bon, cette dette, qu'est-ce qu'on va en faire? Je regarde pour apprendre le plus possible l'État de notre pays, comment il se situe par rapport au reste de l'humanité, à commencer par rapport à nos frères européens. Je fais un point, je fais un audit immédiatement, ça tout le monde l'a fait, mais un audit qui sera rendu public. Mais je commence par essayer d'établir une relation avec les Françaises et les Français en tentant de les toucher au cœur comme je voudrais t'atteindre. C'est-à-dire en te disant que tu es vachement important, que c'est important que tu aies ce micro, que tu le mettes à ma disposition, en te remerciant de le faire et en disant que tout le monde a sa place et que si l'homme retrouve l'homme, eh bien, l'homme va revenir au premier plan des préoccupations. Ensuite, je reconstruis un État. Un État doit être un symbole, il l'a toujours été. C'est autour de lui que s'est construite la France, avec les rois d'abord, et quelques coups de guillotine plus tard, avec les présidents. Et un État, c'est un symbole, parce que ce n'est pas le symbole qui commande. Mais tout le monde doit se retrouver en lui, dans une construction comme la France. Il y a quelque temps, on disait, l'État c'est moi. Est-ce que tu entends dire aujourd'hui, après que tu aies payé tout ce que tu as payé, l'État c'est moi.
Surtout pas, plus personne ne veut l'assumer. Mais est-ce que ce pays est encore gouvernable? Plus personne ne croit en rien, et surtout pas dans la parole publique. Est-ce que c'est un énorme déficit à remonter?
Mais on ne croit pas en l'État, il n'y en a pas. Quand dans la parole publique, il y a des décennies qu'elle ne vaut plus rien. On jure au mois de mai, au moment de se faire élire, on se parjure dès le mois de juin, une fois élu. Donc tu veux croire en quoi dans cette affaire? Donc effectivement, il faut reconstruire un État pour retrouver un symbole, en politique le symbole est essentiel, et un État outil qui permette de mettre mon plan au travail immédiatement. C'est-à-dire que je puisse relancer immédiatement la recherche. Le budget de la recherche était pratiquement de 5% dans les années 60. Et à l'époque, nous trouvions, mais la recherche, c'est aussi un état d'esprit. Qu'est-ce que je peux pour toi? Qu'est-ce que tu peux pour moi? Qu'est-ce qui peut, un gars qui a 70 ans et qui a encore une vie folle de bosser et à qui on l'interdit? De la même manière, qu'est-ce qui peut un type qui a 50 ans et qui est crevé parce que son boulot ne lui permettait pas d'aller plus loin? Qu'est-ce qui peut un jeune qui galère à essayer de trouver un bout de stage qu'il ne trouve pas? Eh bien, il faut qu'il raconte tout ça parce qu'il va apporter à la recherche et aux réponses. Et ensuite, je lance un très grand projet d'instruction publique, comme le firent Grévy et Ferry après la débâcle de 70. Nous sommes quand même le premier et le seul pays au monde à avoir instruit l'ensemble de son peuple.
Alors, Tiffen Lemaine, qui assure la technique de cette émission, mais elle a toujours un micro à porter, me faisait passer un petit papier pour poser une question, mais je préfère que ce soit elle qui la pose. Tiffen.
Bonjour.
Bonjour, Tiffen.
C'était par rapport, en fait, vous parliez de reconstruire un État. Et c'est vrai qu'on a aujourd'hui ce problème où, au moment des présidentielles, on promet beaucoup de choses et il y a des promesses qui ne sont pas tenues. Et du coup, est-ce que l'idée, c'est de reconstruire un État, finalement, dans lequel on peut avoir confiance, quelque chose qui marcherait différemment et où on puisse se dire, bon ben voilà, ce candidat, il promet ça et je peux être sûr que ce sera fait?
Bon, d'abord, Tiffen, si c'était pour faire pire que ce qui existe, alors vraiment, je ferais ce que tu disais, tu t'appelles Guillaume?
Non, Jacques, mais
Jacques,
on s'appelle Guillaume aussi.
Non, c'est Jacques, tu es Jacques. Tu es Jacques, sur ce Jacques, je poserai, non, c'est pas ça, ça marche pas. Bon, mais enfin, donc, non, c'est pour faire mieux, c'est pour reconstruire un outil qui a quand même tenu le coup. Oh, il a failli, hein. Il n'a pas été toujours très bon, mais qu'il soit tout simplement à notre disposition, à la disposition du peuple, et que le peuple reprenne confiance en lui. Parce que son attitude étant de venir en aide, de protéger, d'encourager, de faciliter, de faire grandir et de permettre de fermer tes paupières au moment où un autre les ouvre. Tu comprends? Donc effectivement, si j'arrive à construire cet état, on aura confiance. Et si cet état me permet d'avoir non seulement des idées, j'en ai déjà, mais de les transformer et de présenter un projet aux Français en leur disant « Voilà ce que je veux faire en quelques points, mais j'ai besoin de vous. J'ai besoin peut-être qu'un jour où j'aurai les décisions les plus difficiles à prendre, vous descendiez tous habillés de blanc pour me soutenir dans la rue et pour dire « Oui, nous avons voté pour lui, nous sommes d'accord, il a déjà reconstruit l'État, maintenant il est déjà en train de reconstruire la commune pour repartir d'en bas, c'est-à-dire des territoires. » Là où les choses peuvent se faire, parce que c'est à taille humaine.
Mais elles ne se font plus, parce que les territoires sont complètes déshérences, aujourd'hui.
On
les a vidés, les territoires.
On y a mis du nôtre. Hein.
Ah oui.
Il faut dire d'abord qu'il y a une partie sur laquelle, bon, on n'a pas anticipé, mais ce n'est pas la faute de nos aînés. La révolution industrielle a apporté sa part. Les trois dernières terribles guerres les ont saignées. Et puis, après, on s'est habitué à vivre dans la massification, comme disent aujourd'hui les spécialistes. Et au contraire, on a considéré, on s'est mis à considérer tout ce qui n'était pas ville, en campagne, comme un poids lourd, inutile, vétuste, ne présentant plus aucun intérêt, tout juste bon à faire jacter des vers. Je dis des vers parce que quand même, elle levait, comment ils s'appellent, tout ça, ils ont une pensée, ils ont une réflexion, mais tous ceux qui, voilà, qui te font peur du matin au soir avec le réchauffement climatique, je peux faire l'expression, par exemple, les changements climatiques. Les autres, je leur demanderai de commencer par regarder l'histoire des climats dans notre pays. Et ils se rendraient compte qu'ils ne savent pas tout. Et encore, j'ai peur parce qu'il y a un volcan qui vient de se réveiller en Espagne. Il a grandi l'Espagne, d'ailleurs, paraît-il. Donc, ce n'est pas forcément un défaut. Mais je dis encore un effet du réchauffement de la planète.
Oui, je ne sais pas si le volcan est un effet du réchauffement, mais...
Mais tout est un effet. Donc, au lieu de rester là, je dis, mais au fond, pourquoi on en est là ? On est toujours avec le pétrole. Il y a 80 ans qu'on avait le pétrole. Or, le pétrole... Ça ne lui fait pas du bien à la planète, qu'on veuille ou pas.
Et surtout,
pourtant, on en achète.
Ça ne lui fait pas du bien, mais surtout, il y en a de moins en moins. On a atteint le pétrole, le pic des pétroles conventionnels. On est sur un plateau, on va entamer la pente descendante et nous ne vivons dans notre civilisation que grâce à l'énergie, essentiellement l'énergie du pétrole. Et là, on peut tout craindre.
Et on peut tout craindre. On vit aussi, Dieu merci, grâce à l'énergie nucléaire, sauf qu'on enfouit les déchets pour que nos petits-enfants aient le bonheur de les découvrir entièrement amorcés en dessous des mers. Mais depuis le temps qu'on le dit, moi j'ai envie de traiter le sujet. Il faut une nouvelle énergie. Ce n'est pas les plaques que l'on fout sur les toits fabriquées par des Chinois qui n'y connaissent rien pour mieux nous estomper. Au contraire, je me demande qu'est-ce qu'il y a dans le four de Font-Romeu que le général de Gaulle avait déjà mis en œuvre, avec ses miroirs kaléidoscopiques, qui n'ont même pas besoin de soleil, la lumière suffit à réfléchir une énergie d'une puissance inouïe, qui peut être une formidable force énergétique, et dans un pays où le soleil ne se couche pas, nous avons beaucoup de possibilités. De la même manière, nous sommes la deuxième façade maritime du monde. N'y a-t-il pas une possibilité avec la force des marées, avec la différence thermique qu'il y a entre la hauteur des vagues et 5000 mètres en dessous?
On a fait des tentatives. Il y avait quelque chose, marée motrice, ça s'appelait une énergie
marée
motrice.
Oui, c'était la marée motrice de la Rance.
Voilà, c'est ça, c'est la force de la marée qui faisait tourner les turbines.
Oui, mais c'était un premier essai. C'était epsilon par rapport à ce qu'on peut faire. En tout cas, on n'a pas cherché. Donc aujourd'hui, non seulement le pétrole, il n'y en a plus, et tu as raison de le dire, mais en plus, ce n'est devenu qu'une source de guerre. On vend des armes à nos pires ennemis, qui tuent nos ennemis. On se fait des ennemis partout. On proclame réchauffement de la planète et on effraie tout le monde, ce qui ne nous empêche pas d'organiser l'an prochain la Coupe du Monde de foot au Qatar.
Et voilà, c'est
qui, comme chacun le sait, est un grand protecteur de la planète et des hommes, et etc.
C'est les grands paradoxes. Ça veut dire qu'il y a des postures et qui ne répondent absolument pas à la réalité de terrain. Alors, on pourrait, j'adorerais continuer sur ce sujet qui me passionne, mais bon, le temps court à toute vitesse. Moi, j'avais une autre question à vous poser, puisqu'on est un peu parti sur ce qui se passe à l'international. Comment vous voyez la place de la France dans le monde aujourd'hui ? Elle n'est plus ce qu'elle était, ça c'est clair, mais bon, tout évolue. Comment on est dans un monde qui est dur, qui est marqué par une dérégulation économique importante ? C'est aujourd'hui la loi du plus fort, c'est évident. La France, elle est plus très forte. Comment on va se positionner ? Et puis, question secondaire, vous avez déjà commencé à l'effleurer tout à l'heure. Est-ce que la constitution d'une Europe forte n'est pas une réponse face à des monstres comme les États-Unis, la Chine et à moindre échelle l'URSS ?
Écoutez, c'est la question cardinale, si j'ose dire, pour rejoindre les papes de tout à l'heure. D'abord, l'humanité est tragique, hélas. Et Dieu sait si elle a connu des avatars. Mais il y a des civilisations qui se sont levées. Et nous avons eu la chance d'en vivre une, dans laquelle notre pays a joué un rôle assez significatif, à tel point même que la plupart des pays du monde ont dit la France a une dimension universaliste. Il est vrai que déclarer le peuple souverain, proclamer et au bureau imprimer le cahier, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, régler les problèmes de la laïcité, de la laïcité au début du siècle dernier, et j'en passe, c'était pas peu de choses. La France, grâce à une diplomatie hors du commun, et il valait mieux en avoir, elle n'a pas eu que ça, hein, et elle n'a pas été parfaite non plus. Mais une recherche toujours curieuse a joué un très grand rôle dans la montée de, justement, la civilisation, qui nous éloigne des fauves dont nous sommes issus parce que nous sommes un animal. Ne dit-on pas que l'homme est un loup pour l'homme ? Et nous sommes des fauves. Et par conséquent, je pense qu'il faut régénérer ce que nous avons dans le cerveau, puisque nous avons la chance d'en avoir un, de le corréler avec le cœur et les entrailles pour redevenir ces êtres capables de se dépasser pour régler des problèmes, non pas dans la fureur ni la colère, mais par une intelligence joyeuse et partagée. Et l'un des éléments, je crois, qui fait le plus souffrir les Français aujourd'hui, c'est pas forcément la feuille d'impôt, et pourtant Dieu sait si ça les emmerde, c'est pas tout le reste, c'est de se sentir qu'ils sont dans un pays qui sort de l'histoire, dont vous parliez si brillamment à l'instant. Un pays qui n'est plus rien, et ils ne le supportent pas. Et mon rôle, c'est de remettre la France à la place qui aurait toujours dû rester la sienne, parce qu'elle s'est construite au moins sur un petit millier d'années, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Si les Britanniques, et c'est avec les Britanniques que pour le meilleur ou pour le pire, nous avons écrit les temps d'aujourd'hui. Alors, ils ont compris, ils ont retrouvé la leur, et d'ailleurs pourquoi faire pour nous enquiquiner de suite.
C'est pas faux, mais de toute façon, ils ont toujours eu un pied en dehors, un pied.
Si tu veux, tu peux poser une question. Oui, vas-y, Jacques.
La Chine, ça vous inquiète aujourd'hui, cette puissance, cette agressivité?
Mais écoute, il y a toujours eu des pays qui nous ont agacés. La Chine a au moins un mérite, c'est qu'elle est un peu loin.
Oui, mais aujourd'hui, rien n'est loin dans cette petite planète.
C'est vrai. Mais enfin, quand même, c'est plus facile d'acheminer des produits très, très mauvais de l'Allemagne jusqu'à Strasbourg que de Shanghai jusqu'à je ne sais où, ou de Pékin, parce que Pékin est loin quand même.
On est quand même très dépendant de cette Chine. On lui a délégué beaucoup de nos fabrications.
Voilà.
Et alors, comment on va faire là?
Et on lui a délégué.
Oui, on l'a laissé. On l'a vu là pendant le Covid.
Pour l'instant, on n'a pas envoyé ses forces pour nous les enlever. C'est nous qui lui avons tout donné, comme on avait tout donné aux Américains d'ailleurs avant. Et donc, il ne faut pas s'étonner.
Alors maintenant, comment on fait?
On reconstruit. On rebâtit d'abord l'intelligence. On reconstruit la capacité de la recherche. J'ai beaucoup insisté là-dessus. Un esprit de reconquête, mais pas de conquête violente, de conquête pacifique, mais efficace. Et on reconstruit en France tout ce qui peut y être construit. Après, on peut vendre à nos amis chinois, comme nous vendîmes naguère aux Prussiens, aux Allemands, et même aux Anglais, à d'autres. Il y a toujours eu des dangers. L'humanité est une tragédie. Donc forcément, si elle est tragique, c'est qu'il y a des éléments qui, à un moment ou à un autre, présentent ou constituent un danger mortel. Donc il faut essayer de les dépasser. Ce qu'on a fait maintenant, c'est se taper les uns sur les autres depuis la nuit des temps. Pourquoi? Au fond, fort d'une telle expérience, et en particulier de la mienne, depuis tant d'années, ne pas essayer autre chose. Tout le reste a échoué. Donc, mesdames et messieurs, les Occitans qui nous écoutaient, fils de pute, hein, mesdames et messieurs, françaises et français, mondiaux, vous avez un homme en qui vous pouvez faire confiance, il ne se prend pas pour un autre, il est passé à Don Rémy, il n'a pas entendu de voix, il n'a pas été crucifié, il n'a pas eu de petites histoires avec ni Thérèse ni Madeleine, donc je pense que c'est un élément républicain, et je vous dis, pourquoi voulez-vous que ce soit pire avec moi qu'avec un autre ?
Bien, Jean Lassalle, j'aurais volontiers continué, mais on me fait des signes désespérés parce que vous avez un emploi du temps. Vous allez partir voir les jeunes de l'université de droit qui vous attendent. Je sais que l'amphi est déjà plein.
Ah bon ?
Qu'est-ce que vous allez leur dire en deux mots ?
Ben, ce qu'ils me demanderont.
Ah bon, vous allez répondre aux questions.
Oui.
Bon,
oui,
ils
oui.
sont très excités à l'idée de vous recevoir. J'en connais un certain nombre. Donc. je vais vous y accompagner. On va aller le voir. Jean Lassalle, merci.
Avec toi, je risque rien.
Oui,
parce
absolument.
Que si je ne sais pas, je te fais un signe, tu réponds.
Bon,
viens avec nous. Parce que tes yeux parlent aux jeunes.
voilà.
Et même aux vieux aussi.
Ce sera le mot de conclusion de Jean Lassalle, que je remercie, et son équipe qui est autour de nous. Merci. On finit avec le secanto, parce que c'est quelque chose que vous connaissez bien. Et que Jean Lassalle chante admirablement bien dans les lieux les plus divers.
Canto, io che canto, canto pas per io, canto per ma mio, che io pres de io. Si tu attends que ma chante, c'est ça, tu peux attendre
ça. Ah oui, ça je crois. Voilà, c'était Cap Cap, une émission de Jacques Lavergne peu écourtée aujourd'hui. Merci à Tiffaine, à la technique, et vous retrouverez bien sûr le podcast de cette émission sur le site d'Esprit Occitanie. Adéo.
Allez, chat, fils de pute.